Lettre 303 de Madame de Sévigné à Madame de Grignan. Au Rocher, dimanche 15 janvier 1690. Vous avez raison, je ne puis m'accoutumer à la date de cette année. Cependant, la voilà déjà bien commencée, et vous verrez que, de quelque manière que nous la passions, elle sera, comme vous dites, bientôt passée, et nous trouverons bientôt le fond de notre sac de 1000 francs. Vraiment, vous me gâtez bien, et mes amis de Paris aussi. À peine le soleil remonte du saut d'une puce, que vous me demandez de votre côté quand vous m'attendrez à Grignan. Et mes amis me prient de leur fixer, dès 7 heures, le temps de mon départ, afin d'avancer leur joie. Je suis trop flattée de ces empressements, et surtout des vôtres, qui ne souffrent point de comparaison. Je vous dirai donc, ma chère comtesse, avec sincérité, que, d'ici au mois de septembre, je ne puis recevoir aucune pensée de sortir de ce pays. C'est le temps que j'envoie mes petites voitures à Paris, dont il n'y a eu encore qu'une très petite partie. C'est le temps que l'abbé Charrier traite de mes lodes et ventes, qui est une affaire de 10 000 francs. Nous en parlerons une autre fois, mais contentons-nous de chasser toute espérance de faire un pas avant le temps que je vous ai dit. Du reste, je ne vous dis point que vous êtes mon but, ma perspective, vous le savez bien, et que vous êtes d'une manière dans mon cœur que je craindrais fort que M. de Nicole ne trouvât beaucoup à y circoncire. Mais enfin, telle est ma disposition. Vous me dites la plus tendre chose du monde en souhaitant de ne point voir la fin des heureuses années que vous me souhaitez. Nous sommes bien loin de nous rencontrer dans nos souhaits, car je vous ai mandé une vérité qui est bien juste et bien à sa place et que Dieu sans doute voudra bien exaucer, qui est de suivre l'ordre tout naturel de la Sainte Providence. C'est ce qui me console de tout le chemin laborieux de la vieillesse, ce sentiment irraisonnable et le vôtre trop extraordinaire et trop aimable. Je vous plaindrai quand vous n'aurez plus M. de la Garde et M. le Chevalier. C'est une très parfaitement bonne compagnie. Mais ils ont leur raison, et celle de faire ressusciter la pension d'un homme qui n'est point mort me paraît tout à fait importante. Vous aurez votre enfant qui tiendra joliment sa place à Grignan. Il doit y être le bien reçu par bien des raisons, et vous l'embrasserez aussi de bon cœur. Il m'a écrit encore une jolie lettre pour me souhaiter une heureuse année. Il me paraît désolé à Kaiserswerth. Il dit que rien ne l'empêche de venir à Paris, mais qu'il attend des ordres de Provence, que c'est ce ressort qui le fait agir. Je trouve que vous le faites bien languir. Sa lettre est du 2, je le croyais à Paris. Faites-lui donc venir, et qu'après une petite apparition, il court vous embrasser. Ce petit homme me paraît en état que, si vous trouviez un bon parti, Sa Majesté lui accorderait aisément la survivance de votre très belle charge. Vous trouvez que son caractère et celui de Pauline ne se ressemblent nullement. Il faut pourtant que certaines qualités du cœur soient chez l'un et chez l'autre. Pour l'humeur, c'est une autre affaire. Je suis ravie que ses sentiments soient à votre fantaisie. Je lui souhaiterais un peu plus de penchant pour les sciences, pour la lecture. Cela peut venir. Pour Pauline, cette dévoreuse de livres, j'aime mieux qu'elle n'avale de mauvais que de ne point aimer à lire. Les romans, les comédies, les voitures, les sarrasins, tout cela est bientôt épuisé. A-t-elle tâté de Lucien? Est-elle à portée des petites lettres? Ensuite, il faut l'histoire. Si on a besoin de lui pincer le nez pour lui faire avaler, je la plains. Quant aux beaux livres de dévotion, si elle ne les aime point, tant pis pour elle. Car nous ne savons que trop que, même sans dévotion, on les trouve charmants. À l'égard de la morale, comme elle n'en ferait pas un si bon usage que vous, je ne voudrais point du tout qu'elle mît son petit nez, ni dans Montaigne, ni dans Charron, ni dans les autres de cette sorte. Il est bien matin pour elle. La vraie morale de son âge, c'est celle qu'on apprend dans les bonnes conversations, dans les fables, dans les histoires, par les exemples. Je crois que c'est assez. Si vous lui donnez un peu de votre temps pour causer avec elle, c'est assurément ce qui serait le plus utile. Je ne sais si tout ce que je dis vaut la peine que vous le lisiez, je suis bien loin d'abonder dans mon sens. Vous me demandez si je suis toujours une petite dévote qui ne vaut guère? Oui, justement, voilà ce que je suis toujours et pas davantage à mon grand regret. Tout ce que j'ai de bon, c'est que je sais bien ma religion et de quoi il est question. Je ne prendrai point le faux pour le vrai. Je sais ce qui est bon et ce qui n'en a que l'apparence. J'espère ne m'y point méprendre, et que Dieu m'ayant donné de bons sentiments, il m'en donnera encore. Les grâces passées me garantissent en quelque sorte celles qui viendront. Ainsi je vis dans la confiance, mêlée pourtant de beaucoup de crainte. Mais je vous gronde de trouver notre Corbinel le mystique du diable. Votre frère en pâme de rire. Je le gronde comme vous. Comment, mystique du diable, un homme qui ne songe qu'à détruire son empire, qui ne cesse d'avoir commerce avec les ennemis du diable, qui sont les saints et les saintes de l'Église, un homme qui ne compte pour rien son chien de corps, qui souffre la pauvreté chrétiennement, vous direz philosophiquement, qui ne cesse de célébrer les perfections et l'existence de Dieu, qui ne juge jamais son prochain, qui l'excuse toujours, qui passe sa vie dans la charité et le service du prochain, qui est insensible aux plaisirs et aux délices de la vie, qui, enfin, malgré sa mauvaise fortune, est entièrement soumise à la volonté de Dieu. Et vous appelez cela le mystique du diable ? Vous ne sauriez nier que ce ne soit là le portrait de notre pauvre ami. Cependant, il y a dans ce mot un air de plaisanterie qui fait rire d'abord et qui pourrait surprendre les simples. Mais je résiste, comme vous voyez, et je soutiens le fidèle admirateur de Sainte Thérèse, de ma grand-mère Sainte Chantal et du bienheureux Jean de la Croix. À propos de Corbinelli, il m'écrivit l'autre jour un fort joli billet. Il me rendait compte d'une conversation et d'un dîner chez M. de Lamoignon. Les acteurs étaient les maîtres du logis, M. de Troyes, M. de Toulon, le père Bourdaloue, son compagnon, Despréaux et Corbinelli. On parla des ouvrages des anciens et des modernes. Despréaux soutint les anciens à la réserve d'un seul moderne qui surpassait à son goût et les vieux et les nouveaux. Le compagnon du Bourdaloue, qui faisait l'entendu et qui s'était attaché à Despréaux et à Corbinelli, lui demanda quel était donc ce livre si distingué dans son esprit. Despréaux ne voulut pas le nommer. Corbinelli lui dit « Monsieur, je vous conjure de me le dire afin que je le lise toute la nuit. » Despréaux lui répondit en riant « Ah, monsieur, vous l'avez lu plus d'une fois, j'en suis assuré. » Le jésuite reprend avec un air dédaigneux un quota iris au amar et presse Despréaux de nommer cet auteur si merveilleux. Despréaux lui dit « Mon père ne me pressait point. » Le père continue. Enfin, Despréaux le prend par le bras et, le serrant bien fort, lui dit « Mon père, vous le voulez ? Eh bien, morbleu, c'est Pascal. » « Pascal ?» dit le père tout rouge, tout étonné. « Pascal est autant beau que le faux peut l'être. » « Le faux, reprit Despréaux, le faux, sachez qu'il est aussi vrai qu'il est inimitable. On vient de le traduire en trois langues. » Le père répond, « Il n'en est pas plus vrai. » Despréaux s'échauffe et criant comme un fou, « Quoi, mon père, direz-vous qu'un des vôtres n'est pas fait imprimer dans un de ses livres qu'un chrétien n'est pas obligé d'aimer Dieu ? Osez-vous dire que cela est faux ?»« Monsieur, dit le père en fureur, il faut distinguer. » « Distinguer, dit Despréaux, distinguer, morbleu, distinguer, distinguer si nous sommes obligés d'aimer Dieu. » Et, prenant Corbinelli par le bras, s'enfuit au bout de la chambre, puis revenant et courant comme un forcené, il ne voulut jamais se rapprocher du père, s'en alla rejoindre la compagnie qui était demeurée dans la salle où l'on mange. Ici finit l'histoire, le rideau tombe. Corbinelli me promet le reste dans une conversation. Mais moi, qui suis persuadé que vous trouverez cette scène aussi plaisante que je l'ai trouvée, je vous l'écris, et je crois que si vous la lisez avec vos bons tons, vous en serez assez contente. Ma fille, je vous gronde d'être un seul moment en peine de moi quand vous ne recevez pas mes lettres. Vous oubliez les manières de la poste, il faut s'y accoutumer. Et quand je serai malade, ce que je ne suis point du tout, je ne vous en écrirai pas moins quelques lignes, ou mon fils, ou quelqu'un. Enfin, vous auriez de mes nouvelles. Mais nous n'en sommes pas là. On me mande que plusieurs duchesses et grandes dames ont été enragées, étant à Versailles, de n'être pas du souper du jour des rois. Voilà ce qui s'appelle des afflictions. Vous savez mieux que moi les autres nouvelles. Je trouve Pauline bien suffisante de savoir les échecs. Si elle savait combien ce jeu est au-dessus de ma portée, je craindrais son mépris. Ah oui, je m'en souviens, je n'oublierai jamais ce voyage. Hélas, est-il possible qu'il y ait 21 ans?
Je ne le comprends pas. Il me semble que ce fut l'année passée.
Mais je juge, par le peu que m'a duré ce temps, ce que me paraîtront les années qui viendront encore.